À 11 ans, mon grand-père m'a apporté mon premier livre d'Alexandre Dumas.
Alain Decaux.
Et pendant une semaine, j'ai lu Le Comte de Monte Cristo. Alors j'ai tout de suite réclamé d'autres Dumas, et alors ça a été Les Trois Mousquetaires. Et à travers Dumas, je découvrais un passé. Je ne découvrais pas l'histoire, parce que Dumas, c'est à partir de l'histoire quelque chose de merveilleux, mais ça n'est pas de l'histoire.
Ça peut pas faire de mal.
À travers Dumas, j'accédais au passé, c'est-à-dire à autre chose, à ce qui a été avant nous. Et surtout, Dumas me mettait en contact avec des hommes de chair, ouais. Des hommes de sang, des hommes dont je me disais, ils sont comme nous. Au fond, quand je voyais D'Artagnan chez Louis XIII, je me disais, mais il pourrait avoir un D'Artagnan aujourd'hui.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Vous dépassez les bornes. Qui d'entre vous a eu l'audace de croiser le fer avec le célèbre Jussac ?
Moi, monsieur.
C'est vous, D'Artagnan.
Tous pour un pour tous. C'est la devise aujourd'hui célèbre des mousquetaires d'Alexandre Dumas.
Paris demain parlera de vos exploits, mais vous êtes allé trop loin.
Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, ça peut vraiment pas faire de mal.
Richelieu est le premier ministre. Il est impopulaire, mais extrêmement puissant en France. Que les gardes du ministre vous soient odieux, je le comprends, mais morbleu, modérez vos ardeurs. Vous avez saisi, D'Artagnan.
Pour commencer, voici les premières lignes de ce roman. Chapitre 1, les trois présents de Monsieur D'Artagnan père. Le premier lundi du mois d'avril 1625, le bourg de Main semblait être dans une révolution. Plusieurs bourgeois, voyant s'enfuir les femmes du côté de la Grand-Rue, entendant les enfants crier sur le seuil des portes, se hâtaient d'endosser la cuirasse et se dirigeaient vers l'hôtellerie du Franc Meunier, devant laquelle s'empressait un groupe compact, bruyant et plein de curiosité. Arrivé là, chacun put voir et reconnaître la cause de cette rumeur. Un jeune homme. Traçons son portrait d'un seul trait de plume. Figurez-vous Don Quichotte à 18 ans. Don Quichotte décorcelé, sans aubert et sans cuirasse. Don Quichotte revêtu d'un pourpoint de laine. Visage long et brun, la pommette des joues saillante, signe d'astuce. Les muscles maxillaires énormément développés, indice infaillible auquel on reconnaît le gascon, même sans béret. Et notre jeune homme portait un béret orné d'une espèce de plume. L'œil ouvert et intelligent, le nez crochu mais finement dessiné. Trop grand pour un adolescent, trop petit pour un homme fait, et qu'un œil exercé eût pris pour un fils de fermier en voyage, sans sa longue épée qui, pendue à un baudrier de peau, battait les mollets de son propriétaire quand il était à pied et le poil hérissé de sa monture quand il était à cheval. Car notre jeune homme avait une monture. Et cette monture était même si remarquable qu'elle fut remarquée. C'était un bidet du Béarn, âgé de 12 ou 14 ans, jaune robe, sans crin à la queue, et qui, tout en marchant la tête plus bas que les genoux, faisait encore également ses 8 lieues par jour. Malheureusement, les qualités de ce cheval étaient si bien cachées sous son poil étrange et son allure incongrue que l'apparition du suspect bidet à Main produisit une sensation dont la défaveur rejaillit jusqu'à son cavalier. Et cette sensation avait été d'autant plus pénible au jeune D'Artagnan, ainsi s'appelait le Don Quichotte de cette autre Rocinante, qu'il ne se cachait pas le côté ridicule que lui donnait, si bon cavalier qu'il fût, une pareille monture. Ainsi avait-il fort soupiré en acceptant le don que lui en avait fait Monsieur D'Artagnan père. « Mon fils, avait dit le gentilhomme gascon, ce cheval est né dans la maison de votre père il y a tantôt 13 ans. Et y est resté depuis ce temps-là ce qui doit vous porter à l'aimer. Ne le vendez jamais. Laissez-le mourir tranquillement et honorablement de vieillesse. À la cour, continua M. D'Artagnan père, soutenez dignement votre nom de gentilhomme qui a été porté dignement par vos ancêtres depuis plus de 500 ans. Vous êtes jeune. Vous devez être brave pour deux raisons. La première, c'est que vous êtes gascon. Et la seconde, c'est que vous êtes mon fils. » Ne craignez pas les occasions et cherchez les aventures. Je vous ai fait apprendre à manier l'épée. Vous avez un jarret de fer, un poignet d'acier. Battez-vous à tout propos. Battez-vous. D'autant plus que les duels sont défendus et que par conséquent, il y a deux fois du courage à se battre. Je n'ai mon fils à vous donner que 15 écus, mon cheval et les conseils que vous venez d'entendre. Je n'ai plus qu'un mot à ajouter. Je veux vous parler de Monsieur de Tréville. qui était mon voisin autrefois et qui a eu l'honneur de jouer tout enfant avec notre roi Louis XIII, que Dieu conserve. Quelquefois, leur jeu dégénérait en bataille, et dans ces batailles, le roi n'était pas toujours le plus fort. Les coups qu'il en reçut lui donnèrent beaucoup d'estime et d'amitié pour Monsieur de Tréville. Aussi le voilà capitaine des mousquetaires, c'est-à-dire chef d'une légion de César, dont le roi a fait un très grand cas et que Monsieur le cardinal redoute, lui qui ne redoute pas grand-chose, comme chacun sait. Monsieur de Tréville gagne 10 000 écus par an, c'est donc un fort grand seigneur. Il a commencé comme vous. Allez le voir avec cette lettre et réglez-vous sur lui afin de faire comme lui.
Les Trois Mousquetaires, adapté au cinéma par Georges Sidney.
Imbécile bougre de maladroit.
Vous vous adressez à un futur mousquetaire.
Un futur mousquetaire, hein? Quand vous n'aurez plus de brin de paille dans les cheveux, je veux bien, ni ces manières de paysan.
C'est une insulte!
Eh bien, si vous tenez tellement à laver cette injure, retrouvez-moi à midi derrière le Luxembourg.
Volontiers, monsieur.
D'Artagnan, fraîchement arrivé à Paris, s'est déjà fait 3 ennemis. Athos, Porthos et Aramis, avec lesquels il a respectivement rendez-vous pour se battre en duel. Il va à la rencontre de son premier ennemi, Athos, et découvre l'amitié indéfectible qui les lie. Chapitre 5. Les mousquetaires du roi et les gardes de Monsieur le cardinal. Lorsque D'Artagnan arriva en vue du petit terrain vague qui s'étendait au pied de ce monastère, Athos attendait depuis 5 minutes seulement et midi sonnait. « Monsieur, dit Athos, j'ai fait prévenir 2 de mes amis qui me serviront de second. Mais ces 2 amis ne sont point encore arrivés. Je m'étonne de ce qu'ils tardent. Ce n'est pas leur habitude. « Je n'ai pas de second, moi, monsieur, dit D'Artagnan. Car arrivé d'hier seulement à Paris, je n'y connais encore personne que monsieur de Tréville, auquel j'ai été recommandé par mon père, qui a l'honneur d'être quelque peu de ses amis. » Athos réfléchit un instant. « Vous ne connaissez que monsieur de Tréville ? » demanda-t-il. « Oui, monsieur, je ne connais que lui. » « Ah ça, mais, continua Athos, mais si je vous tue, j'aurai l'air d'un mangeur d'enfants, moi. Attendons ces messieurs, je vous prie, et cela sera plus correct. Ah, en voici un, je crois. » En effet, au bout de la rue de Vaugirard commençait à apparaître le gigantesque Porthos. « Quoi ? » s'écria D'Artagnan. « Votre premier témoin est monsieur Porthos ? » ?»« Oui, cela vous contrarie-t-il ? » ?»« Non, aucunement. » « Et voici le second. » D'Artagnan se retourna du côté indiqué par Athos et reconnut Aramis. « Quoi ? » s'écria-t-il d'un accent plus étonné que la première fois. « Votre second témoin est monsieur Aramis ?»« Sans doute. Ne savez-vous pas qu'on ne nous voit jamais l'un sans l'autre et qu'on nous appelle à la cour et à la ville Athos, Porthos et Aramis, ou les trois inséparables ?» À cet instant, une escouade de gardes de son éminence le cardinal de Richelieu, commandée par M. de Jussac, se montra à l'angle du couvent. « Les gardes du cardinal !» s'écrièrent à la fois Porthos et Aramis. Mais il était trop tard. Les 2 combattants avaient été vus dans une pose qui ne permettait pas de douter de leur intention. « Hola !» cria Jussac en s'avançant vers eux et en faisant signe à ses hommes d'en faire autant. « Hola, mousquetaires, on se bat donc ici ? Et les édits, qu'en faisons-nous ? Si nous vous voyons battre, je vous réponds, moi, dit Athos, que nous nous garderions bien de vous en empêcher. Laissez-nous donc faire, et vous allez avoir du plaisir sans prendre aucune peine. Messieurs, dit Jussac, c'est avec grand regret que je vous déclare que la chose est impossible, notre devoir avant tout. Rengainez donc, s'il vous plaît, et nous suivez. Nous vous chargerons donc si vous désobéissez.
Ils sont 5, dit Athos à demi-voix, et nous ne sommes que 3. Nous serons encore battus, il nous faudra mourir ici, car je le déclare, je ne repartirai pas vaincu devant le capitaine. » Alors Porthos et Aramis se rapprochèrent à l'instant les uns des autres, pendant que Jussac alignait ses soldats. Ce seul moment suffit à D'Artagnan pour prendre son parti. C'était là un de ces événements qui décident de la vie d'un homme. C'était un choix à faire entre le roi et le cardinal. Ce choix fait, il fallait y persévérer. Se battre, c'est-à-dire désobéir à la loi, c'est-à-dire risquer sa tête, c'est-à-dire se faire d'un seul coup l'ennemi d'un ministre plus puissant que le roi lui-même. Voilà ce qu'entrevit le jeune homme, et disons-le à sa louange, il n'hésita point une seconde. Se tournant donc vers Athos et ses amis, « Messieurs, dit-il, je reprendrai s'il vous plaît quelque chose à vos paroles. Vous avez dit que vous n'étiez que 3, mais il me semble à moi que nous sommes 4. »« Mais vous n'êtes pas des nôtres, dit Porthos. »« C'est vrai, répondit D'Artagnan, je n'ai pas l'habit, mais j'ai l'âme. » « Mon cœur est mousquetaire, je le sens bien, monsieur, et cela m'entraîne. »
et les 9 combattants se précipitèrent les uns sur les autres avec une furie qui n'excluait pas une certaine méthode. Athos prit un certain Cahusac, favori du cardinal. Porthos eut Biscarin et Aramis se vit en face de 2 adversaires. Quant à D'Artagnan, il se trouva lancé contre Jussac lui-même. Le cœur du jeune Gascon battait à lui briser la poitrine, non pas de peur, Dieu merci, il n'en avait pas l'ombre, mais d'émulation. Il se battait comme un tigre en fureur, tournant 10 fois autour de son adversaire, changeant 20 fois ses gardes et son terrain. Jussac était, comme on le disait alors, friand de la lame et avait fort pratiqué. Cependant, il avait toutes les peines du monde à se défendre. Furieux d'être tenu en échec par celui qu'il avait regardé comme un enfant, il s'échauffa et commença à faire des fautes. D'Artagnan, qui à défaut de la pratique avait une profonde théorie, redoubla d'agilité. Jussac, voulant en finir, porta un coup terrible à son adversaire en se fendant à fond. Mais celui-ci para prime, et tandis que Jussac se relevait, il lui passa son épée au travers du corps. Jussac tomba comme une masse. D'Artagnan, selon les lois du duel de cette époque, pouvait secourir quelqu'un. Pendant qu'il cherchait du regard celui de ses compagnons qui avaient besoin de son aide, il surprit un coup d'œil d'Athos. D'Artagnan tomba alors sur le flanc de Cahusac en criant « À moi, monsieur le garde, je vous tue !» Cahusac se retourna. « Sans Dieu !» cria Athos à D'Artagnan. « Ne le tuez pas, jeune homme, je vous en prie. J'ai une vieille affaire à terminer avec lui. » D'Artagnan comprit que ce serait désobliger Athos que de ne pas le laisser faire. En effet, quelques secondes après, Cahusac tomba, la gorge traversée d'un coup d'épée. Au même instant, Aramis appuyait son épée contre la poitrine de son adversaire renversé et le forçait à demander merci. Restaient Porthos et Biscarat. Porthos demanda quelle heure il pouvait bien être et lui faisait ses compliments sur la compagnie que venait d'obtenir son frère dans le régiment de Navarre. Mais tout en raillant, il ne gagnait rien. Biscarat était un de ces hommes de fer qui ne tombent que morts. Athos, Aramis et D'Artagnan entourèrent Biscarat et le sommèrent de se rendre. Le quatrième, comme nous l'avons dit, était mort. Puis ils sonnèrent la cloche et en portant 4 épées sur 5, ils s'acheminèrent, ivres de joie, vers l'hôtel de M. de Tréville. On les voyait entrelacés, tenant toute la largeur de la rue, en accostant chaque mousquetaire qu'ils rencontraient, si bien qu'à la fin, ce fut une marche triomphale. Le cœur de D'Artagnan nageait dans l'ivresse. Il marchait entre Athos et Porthos en les étreignant tendrement. « Si je ne suis pas encore mousquetaire, dit-il à ses nouveaux amis en franchissant la porte de l'hôtel de M. de Tréville, au moins me voilà reçu apprenti, n'est-ce pas ? Et maintenant, messieurs, tous pour un pour tous. C'est notre devise, n'est-ce pas ?» Et les 4 amis répétèrent d'une seule voix la formule dictée par D'Artagnan. « Tous pour un pour tous. »
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
« Ça peut pas faire de mal. »
Je suis le 5e mousquetaire, celui dont on n'a rien à faire. C'était moi qui étais pressenti, et puis bah non, voilà, tant pis. Athos, Porthos et Aramis ont pris la route avec les nonnes. La 5e roue, c'est moi, c'est triste, dans un carrosse où tout fonctionne. C'est moi, Ratros, raté, morose. Le héros de pas grand chose, la vie quoi. C'est moi, Ratos, raté, morose. C'est moi, mais laissez-moi.
Alexandre Dumas, c'est notre montagne. C'est une montagne où l'on est quelques-uns à se retrouver.
Antoine Blondin.
Mais où finalement on est beaucoup à se retrouver. C'est naturellement les 3 mousquetaires, et puis c'est le personnage, et c'est même presque toute la famille Dumas. Le papa général, l'Erasus Coclès du Tyrol, est un personnage tout à fait remarquable aussi. Et puis le mot historique chez Dumas, enfin le dialogue, c'est un dialoguiste prodigieux, hein, indépendamment de la péripétie de Capet-d'Épée. Et puis il y a peut-être une vision de l'histoire qui me satisfait assez, qui est probablement baroque et fausse, mais enfin, il faut modifier un peu la réalité, même celle qui ne vous appartient pas, comme c'est le cas pour l'histoire.
D'Artagnan a fait la connaissance de Constance Bonacieux, une jeune mercière, confidente de la reine, en la sauvant des mains des hommes de Richelieu. Le cardinal, jaloux des sentiments que se portent la reine et le duc de Buckingham, tente par tous les moyens de les désavouer. Constance Bonacieux, au centre de tous ces mystères, court donc un grand danger. D'Artagnan s'en inquiète. Le voilà se promenant un soir dans les rues de Paris. Chapitre 11. L'intrigue se noue. À quoi pensait D'Artagnan ? Qu'il s'écartait ainsi de sa route, regardant les étoiles du ciel et tantôt soupirant, tantôt souriant. Il pensait à Madame Bonacieux. Pour un apprenti mousquetaire, la jeune femme était presque une idéalité amoureuse. Jolie, mystérieuse, initiée à presque tous les secrets de cour qui reflétaient tant de charmante gravité sur ses traits gracieux, elle était soupçonnée de n'être pas insensible, ce qui est un attrait irrésistible pour les amants novices. De plus, D'Artagnan l'avait délivrée des mains de la maltraitée, et cet important service établit entre elle et lui un de ces sentiments de reconnaissance qui prennent si facilement un plus tendre caractère. D'Artagnan se voyait déjà, tant les rêves marchent vite sur les ailes de l'imagination, accosté par un messager de la jeune femme qui lui remettait quelques billets de rendez-vous, une chaîne d'or ou un diamant. D'Artagnan, tout en réfléchissant à ses futurs amours, tout en parlant à la nuit, tout en souhaitant du cherche-midi, ou chasse-midi, ainsi qu'on l'appelait alors. Comme il se trouvait dans le quartier d'Aramis, l'idée lui était venue d'aller faire une visite à son ami. Paris, depuis 2 heures, était sombre et commençait à se faire désert. 11 heures sonnaient à toutes les horloges du faubourg Saint-Germain. Il faisait un temps doux. Au loin résonnaient les chants des buveurs dans quelques cabarets perdus dans la plaine. Arrivé au bout de la ruelle, D'Artagnan tourna à gauche. D'Artagnan venait de dépasser la rue Cassette et reconnaissait déjà la porte de la maison de son ami lorsqu'il aperçut quelque chose comme une ombre qui sortait de la rue Servandoni. Ce quelque chose était enveloppé d'un manteau et D'Artagnan crut d'abord que c'était un homme. Mais à la petitesse de la taille, à l'incertitude de la démarche, à l'embarras du pas, il reconnut bientôt une femme. « Si j'allais lui offrir mes services, pensa-t-il. À son allure, on voit qu'elle est jeune. Peut-être est-elle jolie. Oh oui. » Mais une femme qui court les rues à cette heure ne sort guère que pour aller rejoindre son amant. Peste, si j'allais troubler les rendez-vous, ce serait une mauvaise porte pour entrer en relation. Et D'Artagnan, se faisant le plus mince qu'il put, s'abrita dans le côté le plus obscur de la rue, près d'un banc de pierre situé au fond d'une niche. La jeune femme s'approcha résolument du volet d'Aramis et frappa à 3 intervalles égaux, son doigt recourbé. « C'est bien chez Aramis, » murmura D'Artagnan. Au bout de quelques secondes, 2 coups secs retentirent dans l'intérieur. La jeune femme de la rue répondit par un seul coup et le volet s'entr'ouvrit. Les yeux du jeune homme s'étaient habitués à la nuit. D'Artagnan vit que la jeune femme tirait de sa poche un objet blanc qu'elle déploya vivement et qui prit la forme d'un mouchoir. Que diable pouvait donc signifier ce mouchoir ? Profitant de la préoccupation dans laquelle la vue du mouchoir paraissait plonger les 2 personnages que nous avons mis en scène, il sortit de sa cachette et, prompt comme l'éclair, il alla se coller à un angle de la muraille. Arrivé là, D'Artagnan pensa jeter un cri de surprise. Ce n'était pas Aramis qui causait avec la nocturne visiteuse, c'était une femme. Au même instant, la femme de l'appartement prit un second mouchoir de sa poche et l'échangea avec celui qu'on venait de lui montrer. Enfin, le volet se referma. La femme qui se trouvait à l'extérieur de la fenêtre se retourna et vint passer à 4 pas de D'Artagnan en abaissant la coiffe de sa mante. Mais la précaution avait été prise trop tard. D'Artagnan avait déjà reconnu Madame Bonacieux. D'Artagnan courut après elle. Ce n'était pas une chose difficile pour lui que de rejoindre une femme embarrassée dans son manteau. Il la rejoignit donc au tiers de la rue dans laquelle elle s'était engagée. Quand D'Artagnan lui posa la main sur l'épaule, elle tomba sur un genou en criant d'une voix étranglée « Tuez-moi si vous voulez, mais vous ne saurez rien !» D'Artagnan la releva en lui passant le bras autour de la taille. Elle jeta un regard sur l'homme qui lui avait fait si grand peur et reconnaissant D'Artagnan, elle poussa un cri de joie. « Oh, c'est vous !» dit-elle. « Merci, mon Dieu !»« Oui, c'est moi, » dit D'Artagnan. « Moi que Dieu a envoyé pour veiller sur vous, chère Madame Bonacieux. » Vous êtes charmante, mais en même temps vous êtes la femme la plus mystérieuse. Est-ce que je perds à cela ? Non, vous êtes au contraire adorable. Tout cela s'éclaircira plus tard, murmura la jeune femme. Maintenant, monsieur, taisez-vous, j'ai affaire. Si vous pouviez voir mon cœur tout à découvert, dit D'Artagnan,
vous y lirez tant de curiosité que vous auriez pitié de moi, et tant d'amour que vous satisferiez à l'instant même ma curiosité. On n'a rien à craindre de ceux qui vous aiment. Vous parlez bien vite d'amour, monsieur, dit la jeune femme en secouant la tête. C'est que l'amour m'est venu vite, et pour la première fois, et que je n'ai pas 20 ans. Il y a danger de la prison, il y a danger de la vie à me connaître. Alors je ne vous quitte plus. Monsieur, dit la jeune femme, suppliant et joignant les mains, monsieur, au nom du ciel, au nom de l'honneur d'un militaire, au nom de la courtoisie d'un gentilhomme, éloignez-vous. Tenez, voilà minuit qui sonne. C'est l'heure où l'on m'attend. D'Artagnan saisit la main qu'on lui tendait et la baisa ardemment. Ah, j'aimerais mieux ne vous avoir jamais vu, s'écria d'Artagnan avec cette brutalité naïve que les femmes préfèrent souvent à fêterie de la politesse. Eh bien, reprit Madame Bonacieux d'une voix presque caressante, et en serrant la main de d'Artagnan qui n'avait pas abandonné la sienne, eh bien, je n'en dirai pas autant que vous. Ce qui est perdu pour aujourd'hui n'est pas perdu pour l'avenir. Qui sait si, lorsque je serai délié un jour, je ne satisferai pas votre curiosité. Et faites-vous la même promesse à mon amour, s'écria d'Artagnan au comble de la joie. Oh, de ce côté, je ne veux point m'engager. Cela dépendra des sentiments que vous saurez m'inspirer. Ainsi, aujourd'hui, madame, aujourd'hui, monsieur, je n'en suis encore qu'à la reconnaissance. Ah, vous êtes trop charmante, dit d'Artagnan avec tristesse, et vous abusez de mon amour. Non, juste de votre générosité, voilà tout. Mais croyez-le bien, avec certaines gens, tout se retrouve. Oh, vous me rendez le plus heureux des hommes. N'oubliez pas cette soirée. N'oubliez pas cette promesse. Constance Bonacieux a une nouvelle fois été enlevée. Personne ne sait où elle se trouve, pas même d'Artagnan. Désespéré par cette situation, ce dernier aperçoit par hasard la mystérieuse Milady. Il se sent attiré par elle et se confie à Athos. Chapitre 30, Milady. D'Artagnan avait suivi Milady sans être aperçu par elle. Il la vit monter dans son carrosse et l'entendit donner à son cocher l'ordre d'aller à Saint-Germain. Il était inutile d'essayer de suivre à pied une voiture emportée au trot de 2 vigoureux chevaux. D'Artagnan revint donc rue Férou. Dans la rue de Seine, il rencontra Planchet, qui était arrêté devant la boutique d'un pâtissier et qui semblait en extase devant une brioche de la forme la plus appétissante. Il lui donna l'ordre d'aller laisser les 2 chevaux dans les écuries de M. de Tréville et de venir le joindre chez Athos. Athos était chez lui, vidant tristement une des bouteilles de ce fameux vin d'Espagne qu'il avait rapporté de son voyage en Picardie. Au même moment, Planchet passa la tête par la porte entrebâillée et annonça à son maître que les 2 chevaux étaient là.
« Quels chevaux ?» demanda Athos.
« 2 que Monsieur de Tréville me prête pour la promenade et avec lesquels je vais à Saint-Germain. »«
Et qu'allez-vous faire à Saint-Germain ?» demanda encore Athos.
Alors d'Artagnan lui raconta la rencontre qu'il avait faite dans l'église et comment il avait retrouvé cette femme qui, avec le seigneur au manteau noir et à la cicatrice près de la tempe, était sa préoccupation éternelle.
« C'est-à-dire que vous êtes amoureux de celle-là comme vous l'étiez de Madame Bonacieux ?» dit Athos en haussant dédaigneusement les épaules.
« Moi ? Point du tout !» s'écria d'Artagnan. « Je suis seulement curieux d'éclaircir le mystère auquel elle se rattache. Je ne sais pourquoi, je me figure que cette femme, tout inconnue qu'elle m'est, et tout inconnue que je lui suis, a une action sur ma vie. »
« Au fait, vous avez raison, » dit Athos. « Je ne connais pas une femme qui vaille la peine qu'on la cherche quand elle est perdue. Madame Bonacieux est perdue, tant pis pour elle. » qu'elle se retrouve.
Non, Athos, vous vous trompez. J'aime ma pauvre Constance plus que jamais. Et si je savais le lieu où elle est, fût-elle au bout du monde, je partirais pour la tirer des mains de ses ennemis. Mais je l'ignore. Que voulez-vous ? Il faut bien se distraire.
Distriez-vous donc avec Milady, mon cher d'Artagnan. Je le souhaite de tout mon cœur, si cela peut vous amuser.
D'Artagnan et Planchet se mirent en selle et prirent le chemin de Saint-Germain. Tout le long de la route, ce qu'Athos avait dit au jeune homme de Madame de Bonacieux lui revenait à l'esprit. Quoique d'Artagnan ne fût pas d'un caractère fort sentimental, la jolie mercière avait fait une impression réelle sur son cœur. En attendant, il allait tâcher de savoir ce que c'était que Milady. Milady avait parlé à l'homme au manteau noir, donc elle le connaissait. Or, dans l'esprit de D'Artagnan, c'était l'homme au manteau noir qui avait enlevé Madame Bonacieux. D'Artagnan ne mentait donc qu'à moitié, ce qui est bien peu mentir, quand il disait qu'en se mettant à la recherche de Milady, il se mettait en même temps à la recherche de Constance. Milady. La voici au couvent des Carmélites de Béthune, où est retenue Madame Bonacieux, la bien-aimée de D'Artagnan. Pour se venger de lui, Milady amadoue Constance Bonacieux et organise leur évasion. Ce n'est en fait qu'une supercherie. Chapitre 63. Une goutte d'eau. Ce qu'il y avait de plus pressé, c'était d'enlever Madame Bonacieux, de la mettre en lieu de sûreté, et là, le cas échéant, de s'en faire un otage. D'ailleurs, elle sentait, commençant venir un orage, que cette issue était proche et ne pouvait manquer d'être terrible. Le principal pour Milady était donc de la tenir entre ses mains. Madame Bonacieux, c'était la vie de D'Artagnan. C'était plus que sa vie. C'était celle de la femme qu'il aimait. C'était, en cas de mauvaise fortune, un moyen de traiter et d'obtenir sûrement de bonnes conditions. Milady était comme un bon général qui prévoit tout ensemble, la victoire et la défaite, et qui est tout prêt, selon les chances de la bataille, à marcher en avant ou à battre en retraite. Milady et Madame Bonacieux entendirent le bruit d'une voiture qui s'arrêtait à la porte. « Entendez-vous ?» dit Milady. « Oui, le roulement d'une voiture, » dit Madame Bonacieux. « C'est celle que mon frère nous envoie. »« Oh mon Dieu !»« Voyons, Constance, du courage !» On sonnait à la porte du couvent. Milady ne s'était pas trompée. « Montez dans votre chambre, » dit-elle à Madame Bonacieux. « Vous avez bien quelques bijoux que vous désirez emporter. Allez les chercher et venez me rejoindre dans ma chambre. Nous souperons à la hâte. Il faut prendre des forces. »« Grand Dieu, » dit Madame Bonacieux en mettant la main sur sa poitrine. « Le cœur m'étouffe. Je ne puis marcher. »« Du courage, allons, du courage. Pensez que dans un quart d'heure vous êtes sauvés. Et songez que ce que vous allez faire, c'est pour lui que vous le faites. »« Oh oui, tout pour lui. Vous m'avez rendu mon courage en un seul mot. » Madame Bonacieux rejoignit Milady dans sa chambre. Pour lui ôter tout soupçon, si elle en avait, Milady répéta devant elle au laquais toutes ses instructions. Mais c'était à tort qu'elle craignait que Madame Bonacieux n'eût des soupçons. La pauvre jeune femme était trop pure pour soupçonner dans une autre femme une telle perfidie. « Vous le voyez, » dit Milady lorsque le laquais fut sorti, « tout est prêt. La bête ne se doute de rien et croit qu'on me vient chercher de la part du cardinal. Partons. » « Oui, » dit machinalement Madame Bonacieux. « Partons. » Milady lui fit signe de s'asseoir devant elle, lui versa un petit verre de vin d'Espagne et lui servit un blanc de poulet. « Voyons du courage. Prenez quelque chose. » Madame Bonacieux mangea machinalement quelques bouchées et trempa ses lèvres dans son verre. « allons donc, » dit Milady, portant le sien à ses lèvres. « Faites comme moi. » Mais au moment où elle l'approchait de sa bouche, sa main resta suspendue. Elle venait d'entendre sur la route comme le roulement lointain d'un galop qui allait en s'approchant. Ce bruit l'attira de sa joie comme un bruit d'orage réveille au milieu d'un beau rêve. Elle pâlit et courut à la fenêtre, tandis que Madame Bonacieux, se levant toute tremblante, s'appuyait sur sa chaise pour ne point tomber. « Oh mon Dieu !» dit Madame Bonacieux. « Qu'est-ce que ce bruit ?»« Celui de nos amis ou de nos ennemis ?» dit Milady avec son sang-froid terrible. « Restez où vous êtes, je vais vous le dire. » Madame Bonacieux demeura debout, muette, immobile et pâle comme une statue. « C'est l'uniforme des gardes de Monsieur le Cardinal. Pas un instant à perdre !» s'écria Milady. « Fuyons, fuyons !»«
Oui, oui, fuyons !» répéta Madame Bonacieux, sans pouvoir faire un pas.
« Venez donc, mais venez donc ! Grâce au jardin, nous pouvons fuir. J'ai la clé, mais hâtons-nous. Dans 5 minutes, il sera trop tard. »
Madame Bonacieux essaya de marcher, fit 2 pas, et tomba sur ses genoux.
On entendit le roulement de la voiture qui, à la vue des mousquetaires, partait au galop. « Une dernière fois, voulez-vous venir ?» s'écria Milady.
« Oh mon Dieu, vous voyez bien que les forces me manquent. Vous voyez bien que je ne puis marcher. Fuyez seule. »
Tout à coup, un éclair livide jaillit de ses yeux. D'un bond, éperdue, elle courut à la table, versa dans le verre de Madame Bonacieux le contenu d'un chaton de bac qu'elle ouvrit avec une promptitude singulière. C'était un grain rougeâtre qui se fondit aussitôt, puis prenant le verre d'une main ferme. « Buvez !» dit-elle. « Ce vin vous donnera des forces. Buvez !»
La jeune femme but machinalement.
« Ah, ce n'est pas ainsi que je voulais me venger, » dit Milady en reposant avec un sourire infernal le verre sur la table. « Mais ma foi, on fait ce qu'on peut. » et elle s'élança hors de l'appartement. Puis Madame Bonacieux entendit le grincement des grilles qu'on ouvrait, le bruit des bottes et des éperons. Tout à coup, elle jeta un grand cri de joie et s'élança vers la porte. Elle avait reconnu la voix de D'Artagnan. « D'Artagnan ! D'Artagnan ! » s'écria-t-elle. « Est-ce vous ? Par ici ! Par ici ! » « Constance ! Constance ! » répondit le jeune homme. « Où êtes-vous ? » Au même moment, la porte de la cellule céda au choc. Plusieurs hommes se précipitèrent dans la chambre. Madame Bonacieux était tombée dans un fauteuil sans pouvoir faire un mouvement. D'Artagnan jeta un pistolet encore fumant qu'il tenait à la main et tomba à genoux devant sa maîtresse. Athos repassa le sien à sa ceinture, Porthos et Aramis qui tenaient leurs épées nues les remirent au fourreau. « Oh, D'Artagnan, mon bien-aimé, tu viens donc enfin, c'est bien toi. »« Oui, oui, Constance, réunis. »« Oh, elle avait beau dire que tu ne viendrais pas, j'espérais sourdement. Je n'ai pas voulu fuir. Oh, comme j'ai bien fait, comme je suis heureuse. » À ce mot « elle », Athos, qui s'était assis tranquillement, se leva d'un coup. « Elle ? Qui elle ? » demanda D'Artagnan. « Son nom ! Son nom, mon Dieu ! Ne savez-vous donc pas son nom ? Ma tête se trouble, je n'y vois plus. » « À moi, mes amis, à moi. Ses mains sont glacées, » s'écria D'Artagnan. « Elle se trouve mal. Grand Dieu, elle perd connaissance. De l'eau, de l'eau !»«
Ô pauvre femme, pauvre femme !» murmurait Athos d'une voix brisée. Madame Bonacieux rouvrit les yeux sous les baisers de D'Artagnan. Elle revient à elle. « Madame, » dit Athos au nom du ciel, « à qui ce verre vide ?»«
À moi, monsieur, » répondit la jeune femme d'une voix mourante.
« Mais qui vous a versé ce vin qui était dans ce verre ?»«
Elle. »
« Mais qui donc elle ?»«
La comtesse de Winter. »
Les quatre amis poussèrent un seul et même cri. En ce moment, le visage de Madame Bonacieux devint livide. Une douleur sourde la terrassa. Elle tomba haletante dans les bras de Porthos et d'Aramis. D'Artagnan saisit les mains d'Athos avec une angoisse difficile à décrire. « Au nom du ciel, » dit D'Artagnan, « courez, appelez. » Porthos, Aramis, demandez du secours. « Inutile, » dit Athos. « Au poison qu'elle verse, il n'y a pas de contrepoison. »
« Constance, Constance !» cria D'Artagnan. Un soupir s'échappa de la bouche de Madame Bonacieux, effleurant celle de D'Artagnan. Ce soupir, c'était cette âme si chaste et si aimante qui remontait au ciel. D'Artagnan cacha sa figure dans la poitrine d'Athos et éclata en sanglots.
« Pleure, » dit Athos, « pleure, cœur plein d'amour, de jeunesse et de vie. Hélas, je voudrais bien pouvoir pleurer comme toi. »
Et il entraîna son ami, affectueux comme un père, consolant comme un prêtre, grand comme l'homme qui a beaucoup souffert.
Si j'ai un conseil à vous donner, D'Artagnan, c'est de vous enfuir aussitôt en Espagne. Richelieu a donné des ordres pour qu'on vous arrête. Quant à cette femme, oubliez-la.
Vous exigez l'impossible. Cette femme a assassiné le premier ministre d'Angleterre et la bien-aimée de D'Artagnan.
Que vous proposez-vous de faire ?
La retrouver. Nous avons perdu sa trace sur la route de Lille. Nous vous demandons simplement, a-t-elle été vue à Paris ?
Athos, cette femme est protégée par Richelieu. Si vous y touchez... Allons, messieurs, savez-vous ce qui risque de vous arriver ? À tous les cas,
nous savons.
Laissez-la. Je vous en supplie, abandonnez-la à la justice de l'État.
Mais il n'y a pas de justice dans l'État.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
I've been sinning,
Pour ceux qui nous rejoignent, nous voici plongés dans l'une des œuvres majeures d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires.
Jacques Laurent.
J'avais 12 ans ou 13 ans, 12 ans, je lisais. Je lisais du Dumas, par exemple. Je trouve merveilleux que Dumas et Balzac existaient à la même époque parce que tous les deux avaient le même pouvoir créateur. Dumas a créé des types très souvent plus subtils que Balzac. Prenez Les Trois Mousquetaires, regardez bien, c'est le seul roman français sur l'amitié, c'est Les Trois Mousquetaires. Dumas, justement, a conçu la véritable amitié, non pas cette amitié des petits cagneux qui va imprégner un peu la littérature du XXe siècle, les deux garçons qui se trouvent des goûts communs en première année de Cagne, etc., qui a un côté un peu pédé. La vraie amitié masculine, c'est une bande, c'est une chambrée. Et même la bande des Trois Mousquetaires, c'est pas seulement quatre hommes, c'est quatre hommes et les quatre valets, c'est huit hommes ensemble. Et quand ils sont tous les huit dans le bateau, quand la flouque a sauté, on a une bande ensemble sur la mer, c'est très beau.
D'Artagnan est convoqué par le cardinal de Richelieu. Il pense qu'il va se faire condamner car il vient de tuer Milady. Mais c'est sans compter sur un précieux document qu'il détient depuis peu. Il y est écrit que le cardinal ordonne à Milady de l'assassiner. Il a donc la preuve qu'il est d'autant plus coupable que victime de tous ces crimes. Voici leur entretien. Chapitre 67, un messager du cardinal. D'Artagnan resta seul en face du cardinal. C'était sa seconde entrevue avec Richelieu et il avoua qu'il avait été bien convaincu que ce serait la dernière. Richelieu resta debout, appuyé contre la cheminée. Une table était dressée entre lui et D'Artagnan. « Monsieur, dit le cardinal, vous avez été arrêté par mes ordres. » « On me l'a dit, monseigneur. » « Savez-vous pourquoi ?»« Non, monseigneur. » « Car la seule chose pour laquelle je pourrais être arrêté est encore inconnue de son éminence. »« Oh oh ! Que veut dire cela ? Si monseigneur veut m'apprendre d'abord les crimes qu'on m'impute, je lui dirai ensuite les faits que j'ai accomplis. »« On vous impute des crimes qui ont fait choir des têtes plus hautes que la vôtre, monsieur, » dit le cardinal. « Lesquels, monseigneur ? » demanda D'Artagnan avec un calme qui étonna le cardinal lui-même. « On vous impute d'avoir correspondu avec les ennemis du royaume. » On vous impute d'avoir surpris les secrets de l'État. On vous impute d'avoir essayé de faire avorter les plans de votre général. « Et qui m'impute cela ?» dit D'Artagnan, qui se doutait que l'accusation venait de Milady. « Une femme flétrie par la justice du pays ? Une femme qui a épousé un homme en France et un autre en Angleterre ? Une femme qui a empoisonné son second mari et qui a tenté de m'empoisonner moi-même ? « Que dites-vous là, monsieur ? » s'écria le cardinal étonné. « De quelle femme parlez-vous ainsi ? » ?»« De Milady de Winter, » répondit D'Artagnan. « Oui, de Milady de Winter. » dont sans doute vous ignorez tous les crimes. Monsieur, si Milady de Winter a commis les crimes que vous dites, elle sera punie. Elle l'est, monseigneur. Et qui l'a punie ? Nous. Elle est en prison. Elle est morte. Morte ! Répéta le cardinal qui ne pouvait croire à ce qu'il entendait. Trois fois elle a essayé de me tuer et je lui avais pardonné, mais elle a tué la femme que j'aime. Alors mes amis et moi, nous l'avons prise, jugée et condamnée. Un frisson courut par tout le corps du cardinal, qui cependant ne frissonnait pas facilement. Mais comme subissant l'influence d'une pensée muette, la physionomie du cardinal, sombre jusqu'alors, s'éclaircit peu à peu et arriva à la plus parfaite sérénité. « Ainsi, dit-il d'une voix dont la douceur contrastait avec la sévérité de ses paroles, « vous vous êtes constitué juge. Monseigneur, je vous jure que je n'ai pas eu un instant l'intention de défendre ma tête contre vous. Je subirai le châtiment que votre éminence voudra bien m'infliger. Je ne tiens pas assez à la vie pour craindre la mort. »« Oui, je le sais. Vous êtes un homme de cœur, monsieur, » dit le cardinal avec une voix presque affectueuse. « Je puis donc vous dire d'avance que vous serez jugé, condamné même. » Un autre pourrait répondre à votre éminence qu'il a sa grâce dans sa poche. Moi, je me contenterai de vous dire « Ordonnez, monseigneur, je suis prêt. »« Votre grâce ?» dit Richelieu surpris. « Oui, monsieur. » « Et signé de qui ? Du roi ?»« Non, de votre éminence. » «
De moi ? Vous êtes fou, monsieur.
Monseigneur reconnaîtra sans doute son écriture. » Et D'Artagnan présenta au cardinal le précieux papier qu'Athos avait arraché à Milady et qu'il avait donné à D'Artagnan pour lui servir de sauvegarde. Son éminence prit le papier et lut d'une voix lente. « C'est par mon ordre et pour le bien de l'État que le porteur du présent a fait ce qu'il a fait. 3 décembre 1627, Richelieu. » Le cardinal, après avoir lu ces deux lignes, tomba dans une rêverie profonde. « Il médite de quel genre de supplice il me fera mourir, » se dit tout bas D'Artagnan. Richelieu pensait toujours, roulait et déroulait le papier dans ses mains. Enfin, il leva la tête, fixa le regard d'aigle de D'Artagnan et songea combien cet enfant de 21 ans avait d'avenir. Et quelles ressources son activité, son courage et son esprit pouvaient offrir à un bon maître. D'un autre côté, les crimes, la puissance, le génie infernal de Milady l'avait plus d'une fois épouvanté. Il sentait comme une joie secrète d'être à jamais débarrassé de ce complice dangereux. Il déchira alors lentement le papier que D'Artagnan lui avait remis. « Je suis perdu, » dit en lui-même D'Artagnan. Et il s'inclina profondément devant le cardinal en homme qui dit « Seigneur, que votre volonté soit faite. » Le cardinal s'approcha de la table et écrivit quelques lignes sur un parchemin dont les deux tiers étaient déjà remplis et y apposa son sceau. « Ceci est ma condamnation, » se dit D'Artagnan. « Tenez, monsieur, » dit le cardinal au jeune homme, « le nom manque sur ce brevet, vous l'écrirez vous-même. » D'Artagnan prit le papier en hésitant et jeta les yeux dessus. C'était une lieutenance dans les mousquetaires. D'Artagnan tomba aux pieds du cardinal. « Monseigneur, dit-il, ma vie est à vous. Disposez-en désormais. Mais cette faveur que vous m'accordez, je ne la mérite pas. J'ai 3 amis qui sont plus méritants et plus dignes. » « Vous êtes un brave garçon, D'Artagnan, interrompit le cardinal en lui frappant familièrement l'épaule. Faites de ce brevet ce qu'il vous plaira. Seulement rappelez-vous que quoi que le nom soit en blanc, c'est à vous que je le donne. « Je ne l'oublierai jamais, » répondit D'Artagnan. « Votre éminence peut en être certaine. » À la suite de son entretien avec Richelieu, D'Artagnan rejoint ses amis pour partager son dû. Ce sont les dernières pages du roman. Chapitre 67. Un messager du cardinal. « Nous commencions à nous impatienter, » dit Athos. « Me voilà, mes amis, » répondit D'Artagnan, « non seulement libre, mais en faveur. Vous nous conterez cela dès ce soir. » En effet, dès le soir même, D'Artagnan se rendit au logis d'Athos qu'il trouva en train de se vider sa bouteille de vin d'Espagne, occupation qu'il accomplissait religieusement tous les soirs. Il lui raconta ce qui s'était passé entre le cardinal et lui, et tirant le brevet de sa poche, « Tenez, mon cher Athos. » « Voilà, dit-il, ce qui vous revient tout naturellement. » Athos sourit de son doux et charmant sourire. « Ami, dit-il, pour Athos, c'est trop. Gardez ce brevet, il est à vous. Hélas, mon Dieu, vous l'avez acheté assez cher. » D'Artagnan sortit de la chambre d'Athos et entra dans celle de Porthos. Il le trouva vêtu d'un habit magnifique, couvert de broderies splendides, se mirant dans une glace. « Ah ah !» dit Porthos, « c'est vous, cher ami. Comment trouvez-vous que ce vêtement me va ?»« À merveille, » dit D'Artagnan, « mais je viens vous proposer un habit qui vous ira mieux encore. »«
Lequel ?» demanda Porthos.
« Celui de lieutenant mousquetaire. Tenez, mon cher, écrivez votre nom sur ce brevet et soyez bon chef pour moi. » Porthos jeta les yeux sur le brevet et le rendit à D'Artagnan, au grand étonnement du jeune homme.
« Oui, » dit-il, « cela me flatterait beaucoup, mais je n'aurai pas assez longtemps à jouir de cette faveur. Pendant notre expédition de Béthune, le mari de ma duchesse est mort, de sorte que mon cher, le coffre du défunt, me tend dans les bras, j'épouse la veuve. Tenez, j'essayais mon habit de noces. Gardez la lieutenance, mon cher, gardez. »
Le jeune homme entra alors chez Aramis. Il le trouva agenouillé devant un prie-dieu, le front appuyé contre son livre d'heures ouvert. Il lui raconta son entrevue avec le cardinal et tirant pour la 3e fois le brevet de sa poche.
vous, notre ami, notre lumière, notre protecteur invisible, dit-il, acceptez ce brevet. Vous l'avez mérité plus que personne, par votre sagesse et vos conseils toujours suivis de si heureux résultats.
Hélas, cher ami, dit Aramis, nos dernières aventures m'ont dégoûté tout à fait de la vie d'homme d'épée. Cette fois, mon parti est pris irrévocablement. Après le siège, j'entre chez les lazaristes. Gardez ce brevet, d'Artagnan. Le métier des armes vous convient. Vous serez un brave et aventureux capitaine. D'Artagnan, l'œil humide de reconnaissance et brillant de joie, revint à Athos. « Eh bien, dit-il, eux aussi m'ont refusé. C'est que personne, cher ami, n'en était plus digne que vous. » Il prit une plume, écrivit sur le brevet le nom de D'Artagnan et le lui remit. « Je n'aurai donc plus d'amis, dit le jeune homme. Hélas, plus rien que d'amers souvenirs. » Et il laissa tomber sa tête entre ses deux mains, tandis que deux larmes roulaient le long de ses joues. « Vous êtes jeune, vous, répondit Athos, et vos souvenirs amers ont le temps de se changer en doux souvenirs. »
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec à la technique Alain Joubert. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Irène Menahem. Bonne soirée et à la semaine prochaine pour la suite de ce cycle Dumas.